France Culture.
Alors, il faudra peut-être que je prenne une lampe torche. Je sais pas si on voit bien dans la rue.
Il s'appelle comment votre chat ?
Sam.
Il pleure là-bas.
Il est là-bas.
Sam !
Viens, il est là, viens.
Alors, voilà le portail.
Ah oui, ok. C'est... Si on passe par-dessus ça ?
C'est une intrusion, hein.
T'as vu, t'as pris ?
Parce que c'est moi ou les pompiers, quoi, en gros.
Mmh. Attends, attends.
Tu me dis ?
Ouais, vas-y.
C'est Guillaume.
Ah, c'est là, Sam.
Ah, bon, on dirait qu'il y en a deux.
Il y a deux chats. Il y a celui.
Non, ça c'est Zoé.
Ah, bah c'est pas Sam. Moi, j'ai
Sam,
pas...
il est en bas, en fait. Il miaule encore en bas.
Il est là. Où la piscine, même. Viens là, mon vieux.
Je le vois pas.
Je l'entends, mais...
Sam.
Non, non, mais il est loin, là.
Ah, il est par là.
Ah, donc il se déplace.
Je crois qu'on va abandonner la partie, parce que... Ça peut durer.
Je pense qu'il a changé de jardin.
Il est parti.
Ouais.
Il est là.
Non, bah non.
C'est elle que j'ai vue dans le jardin, en plus.
Oui, peut-être, oui. Oh oui, c'est toi, Zoé.
Bon.
Bon,
on va faire l'émission.
Allez.
Allez. Mais en tout cas, on a vu qu'il était là.
France Culture.
Et qu'il allait bien.
Voilà.
Le Book Club.
Ce qui ne nous dispense pas, éventuellement, du propriétaire qui va sonner.
C'est pas grave.
Dans la bibliothèque d'Annie Ernaux.
Ce serait une bonne nouvelle.
Zoé, elle s'en fiche, elle passe par où elle veut.
Oui.
Je ne vais pas faire de remarques sexistes.
Mais Sam, oui. Le gros patapouf, est
oui,
Zoé.
Oui, tenez la revoilà.
Marie Richeux.
C'était toi, Zoé ?
Voilà, nous avons donc commencé par chercher le chat d'Annie Ernaux. Parce qu'il s'était enfui et qu'il nous importait qu'il revienne, mais aussi parce qu'avec ce chat, les arbres, la nuit, la lune quasi pleine, la fameuse maison de Cergy, on atterrissait tout droit dans un livre ouvert et ça avait du goût. On date l'entrée d'Annie Ernaux en littérature avec la publication de son roman autobiographique « Les armoires vides » en 1974. 50 ans de publication donc, lorsque nous la rencontrons chez elle pour faire le portrait de sa bibliothèque. Dans le discours qu'elle prononça lors de la remise du prix Nobel qui consacra son œuvre, elle rappelait que les livres avaient été pour elle des compagnons de toujours. Rappelait aussi que ce goût de la lecture avait été entretenu par sa mère, qui la préférait un livre à la main plutôt qu'à coudre ou à tricoter. Elle disait enfin, avec la malice et la lucidité qu'on lui connaît, que la cherté de ses livres, la suspicion dont il faisait l'objet dans son école religieuse, les lui rendait encore plus désirables. Désirable, c'est le dernier adjectif qu'elle utilise ce soir-là pour parler de l'œuvre de Virginia Woolf, une des autrices qu'elle a choisi de partager avec nous. Fervent, érudit et si généreux partage, on écoute Annie Ernaux.
Bon, Annie Ernaux, on n'a pas retrouvé le chat, mais on est toujours aussi content d'être chez vous pour visiter votre bibliothèque. On y va, on jette un petit coup d'œil sur les rayonnages.
Alors, il y a à gauche la littérature française.
Ouais, on s'approche un peu plus.
Voilà, donc c'est à la fois très très varié. Vous avez Pascal Quignard, vous avez Modiano. Là, je vois Duras, La Douleur, enfin, c'est classé, voilà, j'allais vous dire.
J'allais dire, ouais.
Voilà, c'est classé par ordre alphabétique, le mieux possible. Je tâche que ce soit le mieux possible, effectivement, pour me retrouver. C'est pourquoi, d'ailleurs, donc, il y a ce rayon-là de littérature française, et ensuite, on passera aux littératures étrangères, qui occupent une bonne partie également. Là, ça continue la littérature, donc Marguerite Yourcenar. Au-dessous, ça commence la littérature étrangère, la littérature russe. Vous voyez Grossman, voilà. Ensuite, il y a la littérature hispanique, tchèque.
On quitte le classement alphabétique pour aller vers
oui.
Une case par zone géographique, en gros.
Je peux, oui, enfin, quelquefois plusieurs cases. Et Je tâche aussi que ce soit classé par ordre alphabétique.
Dans les
également,
cases...
oui. Je tâche donc la littérature des pays ex-l'Est. Ensuite, la littérature aussi, ici, c'est la littérature scandinave, danoise. Le rayon n'est pas très fourni, ça je reconnais que j'ai des lacunes en littérature suédoise. Et alors la littérature hispanique est quand même un peu plus fournie.
Avec, je lis hein, comme ça par-dessus la lampe, Clarice Lispector, mais aussi
oui,
Patricia de Sousa,
voilà,
Camille Leger.
Et ensuite, bon, vous aurez tout le rayon des Pléiades,
oui.
Qui bon, voilà, c'est classé là. Classé par époque, classé par siècle. Voilà, les derniers, les plus récents sont en bas. Voilà.
Alors, deux petites curiosités. Vous dites, c'est pour m'y retrouver. Ça veut dire que vous avez quoi comme genre d'usage de votre bibliothèque, concrètement, première question. Et deuxième question, il y a des choses qui sont sorties il y a longtemps, et j'ai vu en littérature française des choses beaucoup plus contemporaines. Ça veut dire que, comment vous faites, la place n'est pas extensible.
Non, la place n'est pas extensible, et vous remarquerez que je suis en train de monter par-dessus maintenant.
Oui, mais ça reste assez raisonnable, je trouve.
Oui, c'est peut-être assez raisonnable, mais j'ai une autre bibliothèque dans mon bureau.
Ah, d'accord.
Que je vais vous montrer. Ah. Voilà. Là, vous avez vraiment un très grand rayon de littérature anglaise. Mmh. Ensuite, il y aura la littérature allemande et la littérature italienne. Sont vraiment sans doute les trois littératures étrangères qui sont les plus importantes. Il y a un rayon littérature asiatique également. Et puis, surtout d'ailleurs, plutôt coréenne que chinoise. Et japonaise aussi, beaucoup bien. Et alors après, vous avez deux grands rayons avec ce que j'appelle voilà les sciences humaines, et mais qui comportent aussi bien la philosophie que la sociologie, que l'histoire. Donc vraiment, bon, vous voyez qu'il y a un rayon Bourdieu qui est assez important.
Tout à fait.
mais pas seulement. Vous avez un rayon d'histoire avec Michel Perrault, important. En bas, c'est plutôt bon. C'est un petit peu des gros livres. On ne sait pas où mettre. C'est un petit peu ça. Quoique, il y a tout de même des bandes dessinées, des romans graphiques, donc qui sont un peu plus que je lis davantage que je ne faisais jusqu'à présent.
Voilà, la poésie.
Ah. La poésie et la peinture. La poésie qui occupe à peu près, à peu près la moitié du rayon, et ensuite la peinture. Vous aurez là notre bibliothèque vitrée, je veux dire un peu les plus anciens et qui sont reliés. Ainsi, j'ai tout Shakespeare, j'ai tout le théâtre français, mais ça date de 50 ans. Hein.
Vous dites parce que quoi, du coup, vous les ouvrez peu, ces armoires vitrées ou...
Alors, non, c'est vraiment parce que je l'ai acheté il y a 30 ans. Mmh. Alors, c'est un peu désordonné à l'intérieur, c'est pas du tout classé là-dedans. Hein. C'est vraiment, je vois des livres... relié très très vieux, il y a une vie de Maupassant dans un exemplaire relié donc en 1964, vous voyez. Donc.
C'est précis.
Oui, mais en fait c'est parce que bon, j'ai présenté ce livre pour un examen, donc j'avais choisi Une vie, voilà, de Maupassant. C'est un de mes livres préférés, voilà, donc. Et puis là, c'est encore plus désordonné, hein, mais apparemment quand même, non, ça ne l'est pas totalement.
On peut dire qu'on est entré du coup dans une autre pièce, si. Qui jouxte votre salon.
Oui, c'est mon bureau.
C'est votre bureau.
C'est mon bureau depuis que j'habite ici, depuis 1977, et rien n'a changé. Mais en revanche, ce qui a beaucoup changé, c'est que les rayons débordent. Voilà, les rayons débordent. Et donc maintenant, je mets des livres sous le plafond, parce que je ne sais plus où les ranger, même en les superposant et voilà. Donc il y a, j'allais dire, des rayons qui se créent, comme le rayon féminisme, vous voyez, avec des livres de femmes qui sont plus de ce côté-là. Il y a mes livres aussi, en peu d'exemplaires, hein, mais c'est juste ce rayon, et aussi des livres de critique, voilà.
Consacrés à votre travail.
Oui, consacrés à mon travail, c'est qu'ils ne sont pas classés non plus, hein, c'est pas du tout classé. Et il y a des livres aussi, alors c'est très affectif ces choses-là, mais si vous voulez, il y a les livres qui m'ont servi pour faire des cours pendant mes années d'enseignement au Centre national d'enseignement à distance. Et donc j'ai travaillé sur Proust, j'ai travaillé sur Rob Grillet. Alors, donc j'ai évidemment des livres qui sont consacrés à la critique. Ah, oui. Également, bon, des livres, alors ça je m'en suis un peu débarrassée, comment faire une composition française, comment, voilà, ces choses-là. Là, c'est vrai qu'il n'en reste plus beaucoup, à part souci de garder quelque chose tout de même du passé, il y a le Lagarde et Michard, là-haut, que j'aperçois.
Mais pas mal de photos, beaucoup plus que dans la bibliothèque. Alors, du salon.
C'est, parce
et des
que,
objets aussi.
Voilà, des objets. Il n'y a pas d'objets de l'autre côté. Mmh. Des objets et des photos de mes proches, en fait, c'est de mes parents, ma grand-mère, mes petits-enfants.
C'est vrai qu'on n'interroge jamais cette évidence que les photos des proches se retrouvent près des livres, alors que ça arrive très souvent.
Je crois que ça arrive très souvent.
Ouais, c'est marrant cette association au fond.
Oui, mais au fond, bon, les photos et les livres, ça va bien ensemble quand même. Ouais. Oui, parce que il m'arrive même de mettre aussi des cartes postales.
Ouais.
Alors là, il y a du courrier en attente et voilà. Alors il y a des collections anciennes, toutes auxquelles je suis attachée. Je suis assez conservatrice sur des livres qui appartiennent effectivement aux premières, je veux dire, mes années d'étudiante.
Mmh. Oui. Vous les avez gardées.
Oui. Oui, c'est un socle. Mmh. C'est le socle d'une culture qui est restée en moi. Bien sûr que je ne lis plus d'anciens français, mais j'ai lu Le Chevalier à la Charrette, Tout Chrétien de Troyes. Et je sais que quelque part, c'est quelque chose qui est inoubliable, qui fait partie de ma conception de l'amour, peut-être aussi, par exemple. Voilà, donc oui, ces livres-là, j'y tiens. Mmh. Oui. Voilà, on a fait un peu le tour. Et
alors justement, je vous demandais tout à l'heure, Annie Arnaud, vous avez quoi comme usage de votre bibliothèque ? C'est un endroit qui est vivant ? Vous les sortez véritablement, les livres ? Vous les consultez de temps en temps ?
Alors, je les range. Je les range, et ce qui permet donc de les feuilleter, par exemple.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Parce que je suis obligée de les ranger à nouveau, puisqu'il y en a toujours d'autres qui arrivent, et que je tiens à une forme de classement. C'est ça, donc je suis bien obligée de...
Ça veut dire qu'il y en a qui sortent, par conséquent.
Oui, c'est vrai que dans les romans français, par exemple, dans d'autres pièces, il y a des livres, je me dis, mais je ne peux pas tout garder. Mmh. Et quelquefois, je fais un tri. Mais c'est toujours un déchirement, parce que je pense que ce livre, à un moment donné, il fait partie de ma vie. Et c'est un peu comme si je l'expulsais. Mmh. C'est une expulsion. Mais c'est vrai que de vivre au milieu avec des livres, ça a toujours été très important pour moi. Bon, il faut imaginer que j'ai passé une enfance dans un monde où il n'y avait pas de bibliothèque du tout. Au fond, la première petite bibliothèque que j'ai pu avoir, c'était ce qu'on appelait un cozy corner, c'est-à-dire autour du lit, il y avait une sorte de tiroir qui entourait le lit et dans lequel je pouvais ranger j'ai des livres, soit au-dessus, soit à l'intérieur des tiroirs. Et c'est ainsi que j'ai commencé d'avoir ce qui était, non pas une bibliothèque, mais quand même un environnement de livres autour de moi quand je dormais. Voilà, c'était quelque chose qui me, qui faisait chaud dans un monde qui effectivement était celui du travail. On n'avait pas de pièce à nous du tout, excepté une minuscule cuisine où, bien entendu, il n'y avait pas de livres, mais seulement le journal du coin. Donc cette idée d'avoir une bibliothèque a été très tôt une certitude que dès que je pourrais, il y aurait une pièce où il y aurait des livres, et c'est ce qui s'est passé, bien sûr, oui.
Vous racontez souvent, en effet, la place qu'a occupée la lecture, même avant de devenir enseignante ou romancière, que c'était vraiment une force, très grande force d'émancipation.
Absolument, c'est-à-dire que je ne peux même pas imaginer mon enfance à ce point-là. Je ne peux pas imaginer mon enfance dès que je sais lire sans des livres, parce que ma mère est une pourvoyeuse de livres. Elle m'achète les livres de la bibliothèque verte, comme on disait à l'époque. En fait, beaucoup d'œuvres connues, d'œuvres importantes, qui étaient allégées pour les jeunes, pour les enfants. C'est ainsi que j'ai pu lire Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et je pense que ce livre m'a tellement marquée que quand je l'ai lu dans une nouvelle traduction et en entier, il y avait des passages que je connaissais absolument par cœur, quoi, qui me remettaient vraiment dans cette atmosphère de l'enfance où, bien entendu, je suis Jane. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne quand on est enfant, bien sûr. Et je lisais donc beaucoup d'ouvrages de cette sorte, et il y a eu aussi des ouvrages dérobés, comme Une vie de Maupassant. Ben voilà, ça, j'avais 12 ans et demi, et ma mère avait demandé, c'est plutôt mon père et moi, on était allés prendre des livres à la bibliothèque municipale. Elle avait dit, prenez-moi du Maupassant. Et on lui avait traité Une vie, et elle m'avait dit, tu ne le liras pas. Évidemment.
Faut pas dire ça.
Faut pas dire ça. Je trouve que ça, c'est cette idée de livre interdit. Moi, j'ai beaucoup vécu là-dedans.
Mais parce que quoi.
Ouais. Mais c'est formidable. Ouais, ouais. Évidemment, je veux dire. C'était formidable. C'est cette transgression. Alors, avec évidemment les dégâts collatéraux, parce que il est certain que ma vision du mariage avec Une vie a été complètement désastreuse, bien entendu, avec la nuit de noces, avec à l'époque, il y a une époque où la lecture, c'est, comme vous dites, l'émancipation, mais sur tous les plans. Et on ne nous dit rien, ni parents, ni professeurs. Donc, sur la sexualité, on se fait des idées complètement folles, et puis on lit. Et de lire, effectivement, ça marque encore plus que tout, que ce qu'on peut entendre, absolument. Il y avait ce livre-là, il y avait aussi, je me souviens, elle m'avait interdit de lire Chérie de Colette, qu'on lui avait prêté. Et là, ça n'a pas fonctionné, je n'ai rien retrouvé. C'était pas du tout, c'était pas du tout de mon âge, vraiment. Chérie, moi je l'ai lu quand j'avais 50 ans, et j'ai trouvé ça très bien.
Avant, c'était trop tôt.
Je pense que c'était vraiment trop tôt, voilà.
On vous a demandé de partager avec nous des bribes de votre bibliothèque, et vous avez choisi pour nous, Annie Arnaud, des textes. On retourne là-bas pour les lire éventuellement ?
Oui. Je les apporte pas, c'est pas la peine.
Ah bah, moi j'ai les extraits, mais comme vous voulez, j'ai vu qu'il y avait Nadja qui est sous votre chat. Oui.
Thank you.
France Culture, le Book Club. Dans la bibliothèque d'Annie Ernaux, Marie Richeux.
Puisqu'on y est, je vous propose qu'on commence par Nadja.
Oui.
Alors
En fait, j'ai choisi le moment où André Breton va rencontrer Nadja. En simplement, il se promène dans Paris et cette rencontre va être le début donc, de rencontre. Des faits, comme il appelle ça, des faits glissades, des faits précipices, c'est-à-dire cette rencontre avec le hasard objectif, c'est-à-dire qu'il a l'impression que quelque chose lui parle du monde extérieur, parce qu'au fond c'est ça, c'est comment la nécessité du monde extérieur rencontre la nécessité intérieure, c'est ça le hasard objectif. Et voilà, donc c'est cette rencontre que j'ai choisie, alors que le livre ne commence pas ainsi. Le livre commence par cette interrogation, qui suis-je ? Et au fond, c'est ce qui va courir dans tout le texte, qui suis-je ? Et il ajoute que le terme, en général, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Donc, qui il va hanter ou fréquenter ? C'est ça. Et bien, justement, Nadja va être une de ces personnes qui va lui apprendre qui il est. Mais attention, on n'est pas dans la psychologie. On n'est pas dans la psychanalyse non plus. Pour moi, il n'y a qu'un terme, on est dans la poésie, dans la vie poétique. Et c'est ça qui est absolument merveilleux.
Je vous laisse nous lire.
Le 4 octobre dernier, à la fin de ces après-midi tout à fait désœuvrés et très mornes, comme j'ai le secret d'en passer, je me trouvais rue Lafayette. Après m'être arrêtée quelques minutes devant la vitrine de la librairie de l'Humanité et avoir fait l'acquisition du dernier ouvrage de Trotsky, sans but, je poursuivais ma route dans la direction de l'opéra. Les bureaux, les ateliers commençaient à se vider. Du haut en bas des maisons, des portes se fermaient, des gens sur le trottoir se serraient la main. Il commençait tout de même à y avoir plus de monde. J'observais sans le vouloir des visages, des accoutrements, des allures. Allons, ce n'était pas encore cela qu'on trouverait prêt à faire la révolution. Je venais de traverser ce carrefour dont j'oublie ou ignore le nom, là, devant une église. Tout à coup, alors qu'elle est peut-être encore à 10 pas de moi, venant en sens inverse, je vois une jeune femme, très pauvrement vêtue, qui, elle aussi, me voit ou m'a vue. Elle va la tête haute, contrairement à tous les autres passants, si frêle qu'elle se pose à peine en marchant. Un sourire imperceptible erre peut-être sur son visage. Curieusement fardée, comme quelqu'un qui, ayant commencé par les yeux, n'a pas eu le temps de finir, mais le bord des yeux si noir pour une blonde. Le bord, nullement la paupière, un tel éclat s'obtient seulement si l'on passe avec soin le crayon que sous la paupière. Il est intéressant de noter à ce propos que Blanche Derval, dans le rôle de Solange, même vue de très près, ne paraissait en rien maquillée. Est-ce à dire que ce qui est très faiblement permis dans la rue mais recommandé au théâtre ne vaut à mes yeux qu'autant qu'il est passé outre à ce qui est défendu dans un cas, ordonné dans l'autre? Peut-être. Je n'avais jamais vu de tels yeux. Sans hésitation, j'adresse la parole à l'inconnu, tout en m'attendant, j'en conviens du reste, au pire. Elle sourit, mais très mystérieusement, et dirais-je, comme en connaissance de cause, bien qu'alors je n'en puisse rien croire. On a tout là, on a évidemment ce qui était un des objectifs du surréalisme, c'est la révolution. Et donc le refus du travail, que le sens de la vie n'est pas donné par le travail. Et on a la rencontre de cette jeune femme qui s'appelle Nadja, qui est Nadja, parce que, dit-elle, en russe, c'est le commencement de l'espérance Et ce n'en est que le commencement. Voilà.
Eh bien, comment est-ce que vous avez choisi les textes que vous voulez partager avec nous ?
Alors, j'ai choisi ces textes dans la mesure où ils ont justement été importants pour ma conception de l'écriture. Vous remarquerez que ces textes, tous inaugurent une façon d'écrire différente. Que chacun des textes, quel que soit son contenu, ouvre une autre possibilité et du même coup nous apprend quelque chose aussi sur la vie, sur nous-mêmes. Donc là, on voit bien que j'ai choisi un texte qui est complètement atypique, qui contient des photos, qui n'est pas un roman, tout est autobiographique et qui est assez désordonné en apparence, mais en fait avec un fil conducteur qui est effectivement ce désir d'illuminer la vie, d'une certaine manière, c'est ça.
Est-ce que ça veut dire, Annie Ernaux, que c'est la place qu'a tenue la littérature dans votre vie, la lecture, c'est-à-dire renseigner et ouvrir à chaque fois des nouveaux modes d'écrire, et ces nouveaux modes d'écrire, c'était à chaque fois des nouveaux modes de vivre, des nouveaux modes de penser la vie ?
Oui, alors c'est surtout vrai dans la jeunesse, mais c'est toujours vrai pour moi. Ce qui compte, c'est tout de même les textes qui, d'un seul coup, découvrent de nouvelles façons d'écriture, de pouvoir écrire. Mmh. C'est ça qui est le plus important. Et c'est pourquoi ensuite, vous avez Proust.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire.
Oui.
Vous avez choisi donc dans la recherche. Le volume 4, c'est ça ?
Oui.
Sodome et Gomorre.
Alors, dans Sodome et Gomorre, c'est le passage sur les intermittences du cœur. Alors, inutile de vous dire que c'est extrêmement difficile de choisir dans Proust. Il y a trop à choisir, et c'est évident. Et donc, j'ai pensé à ce passage, les intermittences du cœur, parce que on ne parle très souvent que de la Madeleine. Cette Madeleine trempée dans le thé, d'un seul coup, il va revoir Combray et son enfance. Et de là sort, comme il est écrit, tout Combray et les gens de Combray. Non, c'est autre chose, c'est les intermittences du cœur. C'est la découverte, c'est une autre sensation qui vient du corps et qui sera la découverte d'une autre découverte extrêmement importante et qui, je crois d'ailleurs maintenant, est comprise par plein de lecteurs. C'est-à-dire que on ne souffre pas forcément sur le moment de quelque chose et à un autre moment, dans la même circonstance, eh bien, on est ravagé par le chagrin.
Ce serait presque le miroir inversé de la Madeleine, c'est-à-dire
oui.
le plaisir de goûter la Madeleine rappelle le plaisir du baiser de la mer, et là, ce
absolument.
Serait la douleur, mais en oui. diffractée dans le temps, quoi.
Oui, c'est absolument cela, c'est-à-dire que en se baissant pour délacer ses bottines, alors qu'il se sent pas bien, il est assez malade, et d'un seul coup, il est submergé par le souvenir de sa grand-mère qui s'était penchée de la même façon sur lui pour justement le réconforter alors qu'il était mal. Et sa grand-mère est morte. Et donc, c'est tout le chagrin qu'il n'a pas éprouvé à la mort de sa grand-mère et qui, d'un seul coup, le submerge. Et ce qui est évidemment très important, c'est comment il analyse les raisons. Il essaye de percer le mystère de ce
retour du chagrin.
Bouleversement de toute ma personne. Dès la première nuit, comme je souffrais d'une crise de fatigue cardiaque, tâchant de dompter ma souffrance, je me baissais avec lenteur et prudence pour me déchausser. Mais à peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s'enfla, remplie d'une présence inconnue, divine. Des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes yeux. L'être qui venait à mon secours, qui me sauvait de la sécheresse de l'âme, c'était celui qui, plusieurs années auparavant, dans un moment de détresse et de solitude identique, dans un moment où je n'avais plus rien de moi, était entré et qui m'avait rendu à moi-même, car il était moi et plus que moi, le contenant qui est plus que le contenu et me l'apportait. Je venais d'apercevoir, dans ma mémoire, penché sur ma fatigue, le visage tendre, préoccupé et déçu de ma grand-mère, telle qu'elle avait été ce premier soir d'arrivée, le visage de ma grand-mère, non pas de celle que je m'étais étonnée et reprochée de si peu regretter et qui n'avait d'elle que le nom, mais de ma grand-mère véritable, dont, pour la première fois depuis les Champs-Élysées où elle avait eu son attaque, je retrouvais dans un souvenir involontaire et complet la réalité vivante. Cette réalité n'existe pas pour nous tant qu'elle n'a pas été recréée par notre pensée. Sans cela, les hommes qui ont été mêlés à un combat gigantesque seraient tous de grands poètes épiques. Et ainsi, dans un désir fou de me précipiter dans ses bras, ce n'était qu'à l'instant, plus d'une année après son enterrement, à cause de cet anachronisme qui empêche si souvent le calendrier des faits de coïncider avec celui des sentiments, que je venais d'apprendre qu'elle était morte. J'avais souvent parlé d'elle depuis ce moment-là, et aussi pensé à elle. Mais sous mes paroles et mes pensées de jeune homme, ingrat, égoïste et cruel, il n'y avait jamais rien eu qui ressemblât à ma grand-mère, parce que dans ma légèreté, mon amour du plaisir, mon accoutumance à la voir malade, je ne contenais en moi qu'à l'état virtuel le souvenir de ce qu'elle avait été. À n'importe quel moment que nous la considérions, notre âme totale n'a qu'une valeur presque fictive, malgré le nombreux bilan de ses richesses, car tantôt les unes, tantôt les autres sont indisponibles, qu'il s'agisse d'ailleurs de richesses effectives aussi bien que de celles de l'imagination. Et pour moi, par exemple, tout autant que de l'ancien nom de Guermantes, de celles combien plus graves de souvenirs vrais de ma grand-mère. Car aux troubles de la mémoire sont liées les intermittences du cœur. C'est sans doute l'existence de notre corps, semblable pour nous à un vase où notre spiritualité serait enclose, qui nous induit à supposer que tous nos biens intérieurs, nos joies passées, toutes nos douleurs sont perpétuellement en notre possession. Peut-être est-il aussi inexact de croire qu'elles s'échappent ou reviennent. En tout cas, si elles restent en nous, c'est la plupart du temps dans un domaine inconnu où elles ne sont de nul service pour nous et où même les plus usuelles sont refoulées par des souvenirs d'ordre différent et qui exclut toute simultanéité avec elle dans la conscience. Mais si le cadre de sensations où elles sont conservées est ressaisi, elles ont à leur tour ce même pouvoir d'expulser tout ce qui leur est incompatible, d'installer seul en nous le moi qui l'ait vécu. C'est évidemment un texte un peu plus complexe que la Madeleine, mais ce qui est formidable, je trouve, c'est que ce terme, les intermittences du cœur, va avoir une fortune extraordinaire et tout le monde va comprendre ce que ça veut dire.
C'est même quand il parle de la coïncidence, de la difficulté à faire coïncider le calendrier des faits avec le calendrier des sentiments. Voilà.
Ça, c'est formidable, bien sûr. Et cette absence de chagrin qu'il a eu et qui revient, voilà, c'est ça qui est très beau, et voilà, peut-être aussi suis-je, j'allais dire, plus sensible à tout ce qui est chez Proust de souffrance, quand il l'exprime, que ce soit la jalousie, d'autres sentiments, mais ce qu'il dit des chagrins, par exemple, les chagrins sont des serviteurs muets, obscurs et détestés, qui nous conduisent par des voies souterraines à la vérité et à la mort. Heureux celui pour qui la première avait précédé la seconde. Oui. Je suis peut-être infiniment plus sensible à ce qu'il y a de perte, de vide chez Proust que le plaisir qui, de toute façon, est toujours un peu mélangé. Voilà.
Vous voulez qu'on aille vers quel texte maintenant ?
Comme vous voulez.
Il y a ça, mais sinon, il peut, je ne sais pas, puisqu'on est dans la mémoire, il peut aussi y avoir ça quand même.
Voilà. Alors, Georges Perec, il est vrai que toute l'œuvre de Perec, pour moi, est importante. Ça a été une découverte, d'abord avec le livre Les Choses, en 1965, lorsque le livre est sorti. Et je ne voyais pas à ce moment-là, je crois que personne ne voyait au fond, que toutes ces accumulations de choses qui résonnait avec l'époque, c'est-à-dire que tout le monde voulait avoir des canapés, voulait avoir c'était les classes moyennes qui découvraient la société de consommation, hein, c'est ça. Donc que toute cette accumulation, en fait, cachait le tragique de ce qui est arrivé à Georges Perec, c'est-à-dire que sa mère est morte dans camp de concentration à Buchenwald et que son père est mort quand il était prisonnier. Qu'il n'a pas, et c'est ça le départ, il n'a pas de souvenir d'enfance. Il n'a pas de souvenir d'enfance. Et il va écrire ce texte absolument, je veux dire, extraordinaire, mais qui est autre chose qu'un livre. Je veux dire qu'on ne sait pas ce qu'est un livre quand on lit ça. C'est W ou le souvenir d'enfance. Et il part d'un fantasme qu'il a à peu près jusqu'à 12 ans. Alors qu'il est travaillé un peu partout, dans sa famille, voilà. Et ce fantasme, c'est, il invente une île W, et qui se trouve sur la Terre de Feu. Et dans cette île, eh bien, il y a des jeunes. Le but, c'est la compétition, c'est le sport. Plus vite, plus haut, plus fort. Et en fait, donc, ce sont des descriptions qui alternent avec ce qu'il a comme souvenir d'enfance. Voilà, donc il y a le fantasme, c'est W, et il y a ce qu'il a comme souvenir très lacunaire de son enfance. Et il y a une progression dans W, c'est dans la partie W, c'est que peu à peu, c'est un endroit terrible. C'est un endroit terrible, et à la fin... À la fin, non seulement ils ne vont pas plus haut, plus fort, mais ils se traînent dans des compétitions ridicules. Et évidemment, on comprend peu à peu, évidemment, que ça, c'est en fait l'univers concentrationnaire, ce qu'il est en train de décrire. Et j'aurais pu choisir un autre passage, un passage notamment où il dit « j'écris parce que j'écris à cause de ses parents qu'il n'a pas eu. » Voilà. Il dit « à cause des miens ». C'est un passage très, très beau sur le sens de son écriture, de remplir justement de son écriture le vide. Mais j'ai pensé que très souvent, on oublie un peu le reste du récit, c'est-à-dire W et la fin. Et c'est la fin que j'ai voulu effectivement lire. Il faut les voir, ces athlètes qui, avec leur tenue rayée, ressemblent à des caricatures de sportifs 1900, s'élancer coude au corps pour un sprint grotesque. Il faut voir ces lanceurs dont les poids sont des boulets, ces sauteurs aux chevilles entravées, ces sauteurs en longueur qui retombent lourdement dans une fosse emplie de purins. Il faut voir ces lutteurs enduits de goudron et de plumes. Il faut voir ces coureurs de fond sautillant à cloche-pied ou à quatre pattes. Il faut voir ces rescapés du marathon, éclopés, transis, trottinant entre deux haies serrées de juges, de touches armées de verges et de gourdins. Il faut les voir, ces athlètes squelettiques, au visage terreux, à l'échine toujours courbée, ces crânes chauves et luisants, ces yeux pleins de panique, ces plaies purulentes, toutes ces marques indélébiles d'une humiliation sans fin, d'une terreur sans fond, toutes ces preuves administrées chaque heure, chaque jour, chaque seconde, d'un écrasement conscient, organisé, hiérarchisé. Il faut voir fonctionner cette machine énorme dont chaque rouage participe avec une efficacité implacable à l'anéantissement systématique des hommes pour ne plus trouver surprenante la médiocrité des performances enregistrées. Le 100 mètres se court en 23 secondes 4, le 200 mètres en 51 secondes. Le meilleur sauteur n'a jamais dépassé 1m30. Celui qui pénétrera un jour dans la forteresse n'y trouvera d'abord qu'une succession de pièces vides, longues et grises. Le bruit de ses pas résonnant sous les hautes voûtes bétonnées lui fera peur. Mais il faudra qu'il poursuive longtemps son chemin avant de découvrir, enfoui dans les profondeurs du sol, les vestiges souterrains d'un monde qu'il croira avoir oublié. Des tas de dents d'or, d'alliances, de lunettes, des milliers et des milliers de vêtements en tas, des fichiers poussiéreux, des stocks de savon de mauvaise qualité. C'est le... Voilà, je pense que c'est un livre que tout le monde devrait lire. Voilà.
C'est pas facile de passer après le W ou le souvenir d'enfance.
Non, c'est pas facile.
Mais c'est pas grave, on va le faire quand même.
Voilà.
Écoute... Pour aller vers Tropisme de Sarraute.
Oui.
C'est une bonne idée ou pas ?
C'est une bonne idée. Donc vous avez, oui. Pour moi, l'œuvre de Nathalie Sarraute est aussi, quelque chose de désirable.
C'est beau en même temps.
Voilà. Parce qu'en fait, elle a découvert quelque chose. Je ne vous parlerai pas de la sous-conversation. Parce qu'on nous parle toujours de ça pour elle, n'est-ce pas? Mais de l'importance de quelque chose qui, justement, n'avait jamais été exprimé et qui reste d'ailleurs extrêmement ténu et auquel elle a donné le nom, dans un premier texte, de tropisme. Qu'est-ce que le tropisme ? On sait, c'est en science, c'est le mouvement des plantes vers la lumière. C'est un mouvement qui n'est pas déterminé par la volonté. Alors, elle l'emploie pour les gens, ce sont en fait des moments donc où on éprouve quelque chose de très fugace. Qu'on pourrait dire un creux dans le temps, ou bien quand on est seul, dans l'attente, ou bien dans une conversation, il y a une sorte de petit dysfonctionnement, dirais-je, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vraiment... Toute son œuvre est fondée sur ça. Toute son œuvre est fondée là-dessus. Elle va, dans tous ses livres, justement, alors ça va être dans la conversation où, justement, elle va inclure ses petits mouvements. Et je pense qu'elle a trouvé là quelque chose qui n'est pas, qu'on n'a pas vraiment encore exploité, finalement.
Magnifique de dire qu'il y a comme ça une sorte... Oui. Parce que vous disiez que c'était désirable, presque des lignes de désir d'écriture qui s'ouvrent à partir de Sarraute.
Oui, c'est ça. Alors là, dans son premier tropisme, ce sont des scènes avec des anonymes. On ne saura pas qui il s'agit. Le premier, c'est en fait devant les Galeries Lafayette, où il y a des enfants. Alors, il y a beaucoup d'enfants dans Tropisme, parce que les enfants semblent justement être dans cette espèce de creux. Ils ne sont pas encore insérés dans la société, donc c'est l'espèce de... Ils ressentent davantage les choses. Et alors, ce que j'ai choisi, eh bien, c'est parce que sans doute, c'est quelque chose que... Moi-même, j'ai dû ressentir. Hein, voilà. Quand il se mettait à faire beau les jours de fête, ils allaient se promener dans les bois de la banlieue. Les taillis broussailleux étaient percés de carrefours où convergeaient symétriquement des allées droites. L'herbe était rare et piétinée, mais sur les branches des feuilles fraîches commençaient à sortir. Elle ne parvenait pas à jeter autour d'elle un peu de leur éclat et ressemblait à ses enfants, au sourire aigrelet qui plisse la figure sous le soleil dans les salles de l'hôpital. Ils s'asseyaient pour déjeuner au bord des routes ou bien dans les clairières pelées. Ils ne paraissaient rien voir, ils dominaient tout cela, les cris grêles des oiseaux, les bourgeons à l'aspect fautif, l'herbe tassée, l'atmosphère épaisse dans laquelle ils vivaient toujours les entourait ici aussi, s'élevait d'eux comme une lourde et âcre vapeur. Ils avaient amené avec eux le compagnon de leurs heures de repos, leur petit enfant solitaire. Lorsque l'enfant voyait qu'il commençait à s'installer à l'endroit qu'ils avaient choisi, il ouvrait son pliant, le posait à côté d'eux et, s'accroupissant dessus, se mettait à racler la terre,
à ramasser en tas des feuilles sèches et des cailloux. Leurs paroles, mêlées aux inquiétants parfums de ce printemps chétif, pleines d'ombre où s'agitaient des formes confuses, l'enveloppaient. L'air dense, comme gluant de poussière, mouillée et de sève, se collait à lui, adhérait à sa peau, à ses yeux. Il refusait d'aller loin d'eux, jouer avec d'autres enfants dans la prairie. Il restait là, agglutiné et plein d'une avidité morne. Il absorbait ce qu'il disait. C'est évidemment un texte un peu mystérieux, mais surtout très ambigu. C'est évident qu'il s'agit d'un enfant avec des vieilles personnes et qu'il a un peu peur de la vie. Alors, on a, avec Enfance de Nathalie Sarraute, on a su qu'effectivement, elle avait des moments de son enfance qui n'étaient pas plus gais que ça. Mais ce que je vois, c'est aussi, dans ce livre, Tropisme, c'est un effort vers, enfin, je veux dire que son œuvre, c'est poétique, quelque part. Voilà. C'est ça.
Ça fait plusieurs fois, parce que tout à l'heure, quand vous parliez de l'œuvre d'André Breton, et que vous cherchiez un mot pour qualifier ça, pour qualifier la vie de rencontre dans laquelle il se lance à partir de Nadja, vous disiez c'est une vie poétique. Et là, pour terminer le propos sur Sarraute, vous dites aussi qu'il y a quelque chose de poétique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça, Annie Arnaud?
Alors, c'est justement, la poésie, c'est tout de même ce qu'on essaie de... Ce qu'on essaie d'exprimer, c'est d'essayer d'exprimer l'inexprimable. C'est tout de même ça, avec très peu de mots. Ça aussi, ça compte beaucoup pour moi. Tout ce qui est bavard, non, c'est pas de la, c'est pas une vision poétique des choses. Mais il faut pas se, je veux dire, je suis très réaliste aussi dans mon approche. Mais disons que pour moi, ce que j'aime dans la littérature, c'est la découverte de choses que auparavant on ne soupçonne pas. Au fond, c'est ça.
Oui, c'est ce que vous dites depuis le début, d'une certaine manière. À chaque fois, ça ouvre, quoi, des territoires, ça ouvre. Et...
C'est ça.
S'il faut choisir entre Woolf ou Carson McCullers, par faute de temps?
Ah, par faute de temps, oh mon Dieu. Eh bien, évidemment, il faut choisir Virginia Woolf. Eh oui, bien sûr. Dans La promenade au phare, qui est pour moi le plus beau, vraiment le plus beau de Virginia Woolf, avec les vagues, bien sûr. Mais il y a dans La promenade au phare, il y a, en fait, pour résumer très vite...
Un enfant veut aller au phare.
Un enfant, c'est son... Mrs. Ramsay et Mr. Ramsay, ils ont 8 enfants, et c'est le petit dernier, c'est James, qui veut aller au phare. Bien. Et le père lui dit, non, il va pleuvoir demain. Et on a, pendant je ne sais combien, c'est très très long, c'est cette soirée dans cette maison un peu délabrée, qui est une maison de vacances où ils viennent, où la famille invite beaucoup de monde. Et donc c'est cette soirée où l'on va voir essentiellement donc Mrs. Ramsay, qui est le centre au fond, parce que c'est elle qui s'occupe de tout dans cette maison. C'est occupée du repas, du bœuf en daube, et surtout sa conscience. Je veux dire qu'on va voir énormément de choses par sa conscience. Et Virginia Woolf, elle nous fait entrer dans une conscience, mais pas seulement celle-là, aussi d'autres personnages, mais en même temps, elle met le monde. C'est-à-dire que à travers ce que pense, ce que voit Mrs. Ramsay, eh bien, je vais dire que c'est toute la condition humaine, presque, qu'on voit. Et alors, notamment, évidemment, il y a, c'est très clair, la condition de la femme. Mais, si vous voulez, je préfère tout ce qui est dans La promenade au phare plutôt que les textes plus, je veux dire, polémiques qu'elle écrira, même qu'Une chambre à soi, vous voyez. C'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup plus là-dedans de compréhension. Donc, ce que j'ai choisi, c'est peut-être pas ce que je trouve de plus beau, mais c'est un moment dans la soirée où elle voit tout le monde s'établir, dont elle est, je ne vais pas employer mon fait, mais disons qu'elle est la grande organisatrice, bien sûr, ordonnatrice. Et elle se pose évidemment des questions. « Mais qu'ai-je fait de ma vie ?» se demanda Mrs. Ramsay en prenant sa place à une extrémité de la table et en regardant les cercles blancs que faisaient toutes les assiettes. « William, dit-elle, mettez-vous à côté de moi. »« Lily, ajouta-t-elle avec lassitude, mettez-vous là-bas. » Ils avaient cela, Paul, Rowley et Minta Doyle, et elle, ceci seulement,
Une table d'une longueur infinie avec des assiettes et des couteaux. À l'autre bout se trouvait son mari, tout affaissé et fronçant les sourcils. Pourquoi ? Elle n'en savait rien. Peu lui importait. Elle ne pouvait comprendre comment elle avait jamais pu éprouver la moindre émotion, la moindre affection à son égard. Elle avait le sentiment d'avoir tout dépassé, d'avoir tout connu, d'avoir tout épuisé. Et pendant qu'elle servait la soupe, il lui semblait voir un tourbillon là, dans lequel ou hors duquel il fallait se trouver. Quant à elle, elle en était sortie. Tout ça, c'est fini, se disait-elle, pendant que les gens faisaient leur entrée, les uns après les autres. « Asseyez-vous là, voulez-vous » dit-elle. Et qu'ils prenaient leur place. Et tout ce temps-là, elle attendait passivement que quelqu'un lui répondît, que quelque chose arrivât. Mais ce n'est pas quelque chose, songea-t-elle en servant la soupe, que l'on puisse dire. Elle leva les sourcils en constatant à quel point cela allait mal ensemble, ce à quoi elle songeait d'une part, et ce qu'elle faisait d'autre part, servir la soupe. Et elle se sentait avec une force grandissante en dehors du tourbillon, ou encore elle avait l'impression qu'une ombre était tombée et que dans cette absence de couleur, elle voyait les choses sous leur vrai jour. La pièce, elle promenait son regard autour d'elle, était dans un état misérable. Il n'y avait nulle part de beauté. Elle s'abstenait de regarder Mr. Tansley. Rien ne semblait s'être fondu. Chacun avait l'air séparé de son voisin. Et c'était à elle qu'incombait l'effort de fusion, de mise en train, de création. Elle sentit à nouveau, sans hostilité, simple fait, la stérilité des hommes. Car si elle n'agissait pas, personne ne le ferait. Aussi se donna-t-elle la petite secousse que l'on donne à une montre arrêtée et le pouls se remit à battre au rythme familier comme la montre se remet à marcher. Une, deux, trois, une, deux, trois. Et ainsi de suite, répéta-t-elle tout en écoutant, protégeant, couvant ce pouls encore faible comme on le fait pour une flamme vacillante avec un journal. Et c'est comme ça, conclut-elle, s'adressant à William Banks par une inclinaison silencieuse de la tête dans sa direction. Le pauvre homme, il n'avait ni femme ni enfant, et sauf ce soir dîner tout seul chez son logeur. Par pitié pour lui, car elle avait maintenant assez de vitalité pour se remettre en route, elle s'était attelée à toute cette besogne, à la façon d'un marin qui sent le vent gonfler sa voile, mais non sans lassitude, non sans envie de demeurer où il se trouve, et qui se dit que si son navire avait coulé, il serait descendu en tournoyant jusqu'au fond de la mer pour y trouver le repos. C'est évidemment, c'est un des moments de, je veux dire, où quelque chose s'écarte, comme la mer s'écarte devant Mrs. Ramsay, qui est par ailleurs toujours d'un très grand. On le voit, elle reprend, elle se reprend, et parce que elle se demande effectivement, à ces moments-là, il y en aura beaucoup dans le roman.
L'achevé de ma vie.
Voilà, c'est un peu ça. Et en même temps, c'est une vie tellement pleine. Et c'est cette image de, c'est évidemment la mère de Virginia Woolf qui est en partie ici. Mais ce qui est beau, c'est aussi l'autre personnage parce que à côté de Mrs. Ramsay qui est présente à ce dîner, il y a Lily Briscoe qui est cette jeune peintre et qui veut peindre. Donc, Mrs. Ramsay, elle veut la peindre alors qu'elle est à la fenêtre, en train justement de lire une histoire à son petit garçon, tout en tricotant un bas. Et ce petit garçon qui demande si on ira au phare. Et il a plu, effectivement, ils n'iront pas au phare. Et il y aura la guerre. Et il y a un très, très beau chapitre. Je crois que c'est Le temps passe et où on voit la maison vide. Et après la guerre, ils reviennent, mais Mrs. Ramsay est morte. Et deux enfants, parmi les huit aussi, sont morts. Et sont là Mr. Ramsay et Lily Briscoe, cette jeune peintre. Et il y aura deux enfants, James, le petit garçon qui est devenu un jeune homme, et puis sa sœur, et ils vont aller avec le père, ils vont aller au phare. C'est là, finalement. Mais ce qui est magnifique, c'est que Lily Briscoe va réussir à peindre ce tableau qu'elle avait laissé inachevé et qu'elle va pouvoir faire une peinture de Mrs. Ramsay, non pas réelle, mais telle que dans son souvenir. Et c'est, ça se termine là-dessus, c'est sur ce tableau qui est, qu'elle réussit. Et Lily Briscoe dit « J'ai eu ma vision ». Et je trouve ça extraordinaire, bien sûr.
Merci infiniment, Annie Ernaux, d'avoir partagé votre bibliothèque avec nous. C'est incroyable de terminer par ça, je crois.
C'est bien.
Ouais.
Merci, oui, c'est beaucoup. Bien.
Ouais. J'ai eu ma vision, je pense que c'est beau, non?
Oui, c'est beau.
Voilà. On fait une minute de silence? Oh bah, ce sera une minute de silence avec un chat. De toute façon, c'est pas comme si elle avait été absente de cette conversation.
Fallait l'entendre tout.
C'est pas grave.
C'est pas grave.
Bah non.
Tu es quand même embêtante.
Every night when we say goodbye, I know that I can see myself as a man. When I put on the suit, I don't have to stay mute. I can talk all the time, 'cause my shoulders are wide. And I'm falling like the leaves on lemon bed. I follow your footprints when I can't hold your.
Ça manque d'illumination, hein, chez moi, quand même. Voilà.
Mais c'était assez beau quand on est arrivé, il y avait les arbres dans la nuit qui tombaient, là, c'était magnifique.
Elle est capable de nous accompagner pour voir encore narguer son frère, la chambre.
Ben, on vous souhaite bonne chance avec Sam alors.
Ben oui. Bon, je vais aller voir.
Merci beaucoup.
Je m'en prie.
Merci beaucoup.
Ben, merci à vous de vous être déplacé. Bon retour ravis. Alors.
Merci beaucoup. Merci. À la prise de son, ici, chez Annie Ernaux, c'était Fabien Gosset. Au mixage, Jean-Baptiste Etchepar-Bord. À la réalisation de cet épisode, c'était Vivien Demeyer. Vous pouvez retrouver tous les textes évoqués et commentés par Annie Ernaux sur la page du Book Club, franceculture.fr. Et c'est aussi sur cette page que vous retrouverez l'ensemble de nos portraits de bibliothèque. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club.
When I was a child, I never felt like a child. I felt like an emperor with a city to burn. I got down on my knees, begged the bed in the trees to give me an answer. Je ne veux pas penser. And it's raining like it did in London. Lover would like to buy a flat in Leningrad, and I treat my tongue in just to hear him every night to talk about Rusker and how they got it right. And just for a second I can be one of the greats. I Caesar on a TV screen, champion of my fate. No one can tell me to stop. I love it.